Pourquoi? Bon. Alors, ce cours est dédié à la réfouachéma de Alice Bat Hasiba, Betorkocharolé, Am Israël.
Amen.
Alors, on arrive maintenant, on a vu dans le mariage, nous sommes arrivés au stade où le Khatan a spécifié qui sont ses Edim, qui sont ses témoins. Et on va passer maintenant à l'acte le plus important, c'est les Kiddushin. En deux mots, de la Torah, une femme devient la femme de son mari, s'il y a un acte d'acquisition, ce n'est pas un achat. C'est le désir des deux de se marier. Il est entériné, il est réalisé dans la réalité par le fait que l'homme donne à la femme un objet qui a la valeur au moins d'une pruta. Le ménage est la coutume qu'on donne une bague. Pourquoi une bague? Beaucoup de raisons ont été évoquées à ce niveau. Le Zohar, Tikkun Zohar, il dit parce que Yehuda, comme vous savez l'histoire, il était veuf. Et là, sur le chemin, il a vu une femme. C'était en fait sa belle-fille, la femme qui était censée devenir sa belle-fille. D'accord. Il a eu deux enfants qui sont mariés avec cette femme-là, et les deux sont morts. Et il lui a promis le troisième enfant. Et il avait peur, en fait, de lui donner le troisième enfant, donc il a assez attendre comme ça. Elle voulait absolument avoir de la descendance avec Yehuda, donc il s'est déguisé en prostituée sur le chemin, et Yehuda, il l'a vu, il n'a pas reconnu, elle se cachait la tête, et aussi, lorsqu'elle était sa belle-fille, elle était extrêmement pudique, donc il ne l'a pas reconnue, et il a une relation avec elle, d'où est sortie, en fait, la descendance du Mashiach, d'accord, c'est de Peretz. Peretz, elle a eu deux enfants. De Peretz est sorti c'est un des ancêtres du roi David. D'après le Zohar, il n'est pas venu avec elle comme ça, comme avec une prostituée. Il lui a fait des kiddushin. Il lui a fait un acte d'acquisition, comme il se doit, des kiddushin. Il lui a donné une bague. C'est marqué effectivement dans la Torah. Qu'est-ce que tu me demandes en contrepartie? Elle lui a demandé, donne-moi ton chotam. Chotam, c'est le sceau. C'est la bague qu'on porte avec le sceau. Donc, d'après le Zohar, déjà, on voit que dans la Torah, on a fait des kiddushin avec une bague. Beaucoup d'autres raisons ont été données aussi. Une, pour que la femme porte la bague toujours, comme ça, elle se souvient toujours qu'elle est mariée, elle ne va pas faire des bêtises. Une autre, c'est que, comme c'est un rond, c'est pour montrer un beau signe que, de même que le rond ne s'arrête jamais, donc leur union ne s'arrêtera jamais. Qu'est-ce qu'il y a encore comme raisons qui ont été données? Bon, la raison principale, on va dire, c'est d'après la mystique juive, c'est une chose très profonde, c'est qu'en fait, lorsque l'homme va donner la bague à sa femme, en tant que kiddushin, c'est important ça, il ne faut pas que c'est un cadeau, je t'aime bien, c'est un acte de j'exprime ma sympathie, d'accord? Pas, il faut bien expliquer au Khatan à la Kala, par le fait qu'elle reçoit maintenant ce cadeau-là, cette chose-là, c'est une matana, ça lui appartient désormais, elle devient sa femme, c'est un acte de kiddushin. Quand a lieu ce don de la bague, alors l'être humain, il faut savoir au niveau de son âme, il a deux sortes de lumière. On a en nous deux sortes de lumière. Or primi, une lumière intérieure, et or makif, une lumière extérieure. Par exemple, nous portons tous le talit katan dessous, ça correspond à la lumière intérieure. Le matin, avant la prière, on met le talit gadol à l'extérieur, ça correspond à la lumière extérieure. Lorsqu'il met la bague sur la femme, de même que la bague est extérieure à la femme, il y a une partie de son âme, du rouach, de l'homme, la partie extérieure de l'âme qui va entourer, qui rentre dans la femme. Elle reçoit tout à coup une partie d'âme de son mari. Plus tard durant la nuit, il y aura la relation, la consommation du mariage, il y aura la partie intérieure du rouach de l'homme qui va rentrer dans le rouach de la femme. Donc la femme, en fait, elle reçoit des parties d'âme de son mari. Toujours dans le monde, dans la mystique, dans la réalité, le côté masculin, tout est divisé en masculin et féminin, toute la réalité est comme ça. Masculin, c'est mashpia, c'est qui donne, et féminin, c'est qui reçoit. Celui qui donne, il est appelé masculin, celui qui est récepteur est appelé féminin. Donc c'est la femme qui va recevoir et non l'homme qui reçoit.
Ça a un rapport avec la bague, même.
Alors la bague, elle entoure le doigt de la femme. Ça correspond aux parties d'âme qui entourent, or makif, lumière qui entoure. Dans leur relation, alors ce sera la partie intérieure de l'homme qui va. L'âme intérieure qui va rentrer dans la femme. C'est pour cela que beaucoup de gens posent la question. Pourquoi, si une femme, elle, trompe son mari, au niveau de la Torah, c'est plus grave que si un homme trompe sa femme. À tous les niveaux, c'est certain qu'au niveau de la relation, de la confiance qu'il y a entre l'homme et la femme, dans tous les cas, c'est un malheur terrible qui s'est passé. C'est une chose qui est une trahison, c'est une chose qui est terrible. Mais néanmoins, au niveau de des conséquences mystiques dans les mondes supérieurs, si une femme mariée va avec un homme, c'est plus grave que si un homme marié va avec une femme non mariée. Si l'homme va avec une femme mariée, ça revient au même. Mais si l'homme va avec une femme qui est non mariée, c'est interdit par la Torah, c'est aussi grave que de manger du porc, mais c'est quand même moins grave que pour la femme. Pourquoi ? On pourrait dire c'est injuste. C'est pas juste injuste. Vu que la femme reçoit une partie d'âme de l'homme, donc si elle maintenant, avec la partie d'homme qu'elle a en elle, elle va avoir un autre homme, ça fait un court-circuit. On ne peut pas avoir deux âmes d'homme dans une femme. Ça fait un boum badaboum terrible. Ce qui n'est pas le cas de l'homme qui n'a pas reçu une partie d'âme de la femme. C'est la raison mystique beaucoup plus profonde pour laquelle, évidemment, ça reste très grave dans tous les cas de figure que l'homme ou la femme le fasse. C'est pas une tradition que les hommes disent « Ah bon, bah pour moi c'est moins grave, donc c'est pas si grave. » C'est extrêmement grave. C'est évident, d'accord, c'est tout ce qu'il y a de plus vil et de plus la trahison la plus grande qu'il puisse y avoir. Néanmoins, au niveau mystique, la femme qui a fait cela, c'est quand même plus grave au niveau des mondes qui sont détruits. Le boum badaboum mystique qui se passe au niveau des âmes, il est plus grand que si c'est l'homme qui a fait cela. Pourquoi ? Comme je viens d'expliquer, lorsqu'on met la bague, alors il y a une partie d'âme de l'homme qui rentre dans la femme. Et vu que la bague est extérieure, on parlera des parties extérieures de l'homme qui rentrent dans les parties extérieures de la femme. Oui.
Si maintenant l'homme, pour acquérir sa femme, il l'offre.
Pour pardon ? Il n'y a pas de problème. Alors on peut donner quoi que ce soit. On peut donner de l'argent, on peut donner un livre, un MP3, ce que tu veux. La coutume aujourd'hui, pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est qu'on donne une bague. C'est une coutume, mais comme ça on fait. Maintenant, il est bien que ce soit c'est la coutume, c'est pas obligatoire. Il y en a qui offrent une bague d'argent, pas d'or. Pourquoi ? Il y a un petit remèze, un petit signe. Encore une fois, c'est pas obligatoire. Moi, je vais avec une bague d'or. Beaucoup d'autres le font avec une bague d'or. La majorité des juifs le font comme ça. Il y en a qui aiment faire mieux. Alors peut-être c'est mieux avec une bague d'argent, d'argent pur, parce qu'ils disent que, d'abord au niveau mystique, l'or correspond au din. Din, c'est la rigueur. On verra que lorsque le Kohen Gadol rentre dans le Saint des Saints le jour de Kippour, il a deux sortes d'habits, le Kohen Gadol. Il a des habits qui sont cousus avec de l'or et les enlève. Il ne peut pas rentrer maintenant dans le Saint des Saints pour faire la défense du peuple d'Israël avec une chose qui reflète, qui symbolise, pas symbolise, qui est vraiment au niveau mystique, qui est le din, qui est la rigueur. La rigueur, au contraire, nous, on veut à Yom Kippour, on veut attirer la clémence de Dieu, la miséricorde. La miséricorde, elle est un moment, la miséricorde, elle est symbolisée, elle est représentée par l'argent. Donc le Kohen Gadol qui va rentrer dans le Saint des Saints, il enlève les habits qui sont cousus avec de l'or. Chazal ont dit ça de façon un peu autre. Ils ont dit, l'or fait penser au veau d'or. Comment tu peux aller maintenant être l'avocat de la défense alors que maintenant tu portes les habits de l'accusation? Donc le Kohen Gadol va enlever ses habits d'or, va rentrer dans le Saint des Saints sans habits d'or, rien qu'avec des habits blancs. Nous aussi, à l'instar de cela, il est bien qu'on ne donne pas une bague d'or. Encore une fois, la majorité des Juifs donnent oui une bague d'or. Moi-même, j'ai fait ainsi, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui veulent faire encore mieux, ils achèteront une bague d'argent. Et parce que l'argent, il symbolise au niveau de la mystique juive le chesed. Au contraire, la miséricorde, la clémence de Dieu. Un autre petit remède aussi qui donne, c'est que les lettres du mot Zahav, or, c'est 7, Zain c'est 7, Hei c'est 5, et Bet c'est 2, ça va en descendant. Or, qu'est-ce que c'est ? Ça va en montant. Kaf c'est 20, Samer c'est 60, P c'est 80. Donc on préfère aller en montant avec sa femme qu'en descendant. Oui.
On nous a dit que Kesef, symbolise le din.
Non.
L'or, ça symbolise le din, d'accord. Maintenant, vous avez évoqué une raison, c'est à cause du veau d'or. Ça rappelle le veau d'or, donc ça, c'est le din. Ça rappelle une grande faute d'Israël, ça rappelle le din. Mais c'est la seule raison pour laquelle on a dit que l'or, ça symbolise le din.
Il y a deux raisons pour lesquelles l'or est déconseillé. Un, ça rappelle le veau d'or. Mais ça, c'est au niveau du sens simple. La mystique juive va dire l'or aussi au niveau mystique. C'est pas de raison de pshat, de sens simple. C'est au niveau mystique. Au mystique, chaque chose dans le monde a une racine mystique. La racine mystique de l'or, c'est din. Pourquoi ? C'est comme ça. La Kabbalah, on a reçu. Ok. Et
au niveau d'une forme ronde, carrée.
Alors, très bien. Minag aussi, normalement là-bas, toutes les bagues, elles sont rondes. Il y a une nouvelle coutume qui est rentrée, qui est basée sur ce qu'est le Ben Ishraï, ceux qui veulent vraiment faire le mieux du mieux, et prendront une bague d'argent pur, qui est ronde à l'intérieur, carrée à l'extérieur, et dans l'intérieur, dans le rond, il y a un He qui est gravé. He, parce que ça correspond à la dernière lettre du nom de Dieu, c'est le côté féminin. Ok, maintenant, il faut dire au Khatan, avant le mariage, de ne pas oublier la bague. Parce que s'il vient au mariage, lui il est là, mais il n'y a pas de bague, il n'y a pas de mariage, d'accord? C'est un peu en kikinant. Alors, en bon français, ça la fout mal de donner une pièce, d'accord? Il y a une bague, c'est comme ça qu'on fait. En plus, on voit qu'il y a beaucoup de bons minhagim de donner. Donc, il faut rappeler au Khatan, et des fois, il oublie tellement il est le pauvre, il va se marier, il ne sait pas où il se trouve. Et il faut lui rappeler d'amener la bague. Il sort la bague, et on va demander au témoin de vérifier est-ce que cette bague a bien la valeur d'une prouta, au moins une prouta. Alors on demande au Khatan, est-ce que c'est de l'or, est-ce que c'est de l'argent, on voit aussi si c'est, on peut le voir, d'abord il y a un petit tampon dedans aussi, on voit. Et effectivement, on dit à la femme, c'est chevet prouta, sache, maintenant tu seras marié avec une chose qui est chevet prouta. Ça vaut la valeur d'une prouta. Il faut que les témoins voient, il faut que la femme entende cela. Parce que la femme, c'est environ aujourd'hui 7 agouros, c'est environ un centime d'euro. C'est pas grand chose. Encore une fois, c'est pas le prix de la femme, chassé shalom. La femme, elle vaut des milliards. Mais c'est le minimum qui a une valeur monétaire pour qu'il y ait un acte d'acquisition qui soit valable sur Terre, qu'il y ait un acte, une réalisation du désir des deux de se marier. Maintenant, on demande aux deux édimes de bien voir que ça se fait pour tard. Il faut que la femme entende aussi entende cela. Et c'est pas bien. Il faut qu'elle sache qu'effectivement, sinon, si la femme ne sait pas que ça vaut une prouta, elle n'est pas mariée. Il y a un safek.
Elle n'a pas entendu des témoins, mais elle le sait de base.
C'est pas valable. Les kiddushin, il y a un safek que les kiddushin sont valables parce qu'on sait peut-être que c'est peut-être. On dit losamchadata. Elle n'est pas convaincue qu'effectivement on lui donne ce qu'il vaut, ce qu'il faut. Ça ne vaut pas ce qu'il faut. Il faut que la femme soit certaine. C'est pour cela que la coutume, comme ça on doit faire, est de ne pas prendre des bagues qui ont des pierres dessus. Parce que s'il y a une pierre dessus, elle pourra croire, bon, le métal, c'est rien, c'est peut-être de l'aluminium. Attends, qu'est-ce qui rend la valeur de la pierre, de la bague? C'est la pierre. Maintenant, combien elle vaut cette pierre? Peut-être c'est un zircon, peut-être c'est un morceau de verre un peu brillant. Elle ne sait pas. À moins qu'il y ait deux spécialistes ici sur place en diamant, voilà, qui dit nous sommes diamantaires, voilà, ça vaut sur le marché 600 euros, c'est bon. Alors là, samkhadata, là, elle dit, ok, là, je suis d'accord. Vu qu'on n'a pas toujours des diamantaires qui sont sur place, alors le minhag est comme ça, qu'on prend une bague qui est de métal, c'est tout. De métal or ou argent, ou platine, ou or blanc, tout va. Mais pas de pierre, parce que la pierre, au niveau de la pierre, il y a ici un manque de confiance au niveau de la femme, elle ne sait pas combien ça vaut. C'est vrai qu'aussi, on dira pas, les dîmes ne pourront pas dire, ah, ça vaut au moins 20 euros ou 30 euros. Parce que s'ils se trompent, elle veut, peut se marier avec 20 euros. Puis en fait, la bague, elle vaut que 19 euros. De nouveau, il y a un problème. Il y a un safek, il y a un doute si elle est mariée ou non. Donc, les deux témoins diront, il y a ici au moins une prouta. Il y a au moins une prouta. C'est bon. J'avais prouta. Ça vaut une prouta, je suis prêt à me marier. Et elle sait que c'est le mari avec une chose qui vaut une prouta. Peut-être plus. En tout cas, une prouta, oui. Donc, première chose, on demande aux deux témoins de bien vérifier que ça vaut une prouta. Deuxième chose, et ça, il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là, il faut absolument que cette bague appartienne au Khatan, complètement. Des fois, ça a été acheté avec un compte commun qu'il y a entre l'homme et la femme. Donc, il y a une partie qui appartient à la femme, donc ça ne va pas. Des fois, c'est le père qui a acheté la bague, des fois, c'est un copain qui a acheté la bague. Alors, si le garçon, c'est lui qui l'a acheté avec son argent, le khatan, il n'y a pas de problème. Si jamais c'est le père qui l'a acheté ou quelqu'un d'autre, alors il est absolument nécessaire que cette personne qui a acheté la bague donne la bague au khatan kinyan gamour, un don absolu total. Que la bague entière appartienne au khatan. Si parce qu'on demandera, donc aux deux edim, on demande en face des deux édimes, parce que les deux édimes, les deux témoins, doivent témoigner qu'effectivement, il l'a marié. Alors, ils doivent savoir, il l'a marié avec une chose qui a une valeur d'une prouta, premièrement, avec une chose qui lui appartient. Donc, en face des deux édimes, on demande au Khatan, est-ce que tu l'as acheté avec ton argent? Oui, complètement. Si quelqu'un te l'a donné, ça t'appartient, on t'a donné en don par... J'étais une fois à une roupa, et le Khatan, il a dit non, on l'a acheté dans le compte commun avec ma femme et moi. Alors, Rav là-bas, c'est un des grands rabbins d'Israël, il a fait donner à la femme toute la partie que vous avez dans cette bague qui vous appartient, donc vous la donnez en cadeau complet à votre futur mari. Alors, je te le donne. Maintenant, c'est tout à toi, entièrement. Maintenant que c'est entièrement à lui, il peut maintenant faire l'acte de Kiddushin.
C'est-à-dire qu'il y a un problème si le père, il dit, tiens...
Il n'y a pas de problème, mais il faut que le père, il donne ça. Tu dis, papa, tu me donnes, c'est à moi, c'est à toi, mon fils. Complètement, complètement. Là, ça va.
Il lui donne l'argent.
L'argent, ça va aussi. Tout, mais il faut... Non. Non, non, pas de... Quand moi, je donne un cadeau à quelqu'un, ça lui appartient, pas besoin qu'il y ait des édimes. Mais il faut que ce soit très clair, que ça lui appartient dorénavant complètement. C'est à lui.
Il est obligé de le dire, le père, dire oui, c'est à toi, mon fils. Ou alors, si par exemple, le fils, il dit à son père, tu me le donnes, et il acquiesce. Il est obligé de le dire avec les mots, comment ça se passe?
Regarde, je raconte une histoire. Ici en Israël, il y a 30-40 ans, les rabbanim venaient au kibbutz faire le kiddushin, marier des gens. Au kibbutz, vous savez, personne n'a de propriété. Tout appartient au kibbutz et toi, tu n'as rien. Tu es un membre du kibbutz et tu as droit au fruit du kibbutz. Maintenant, il faut avoir une bague qui t'appartient. Qui au kibbutz a le prix, a l'argent pour aller acheter maintenant une bague en argent ou en or? Personne. Alors, ils ont prévu le coup au kibbutz. Il y avait au secrétariat du kibbutz, il y avait une bague. La bague pour mariage. Un petit clou comme ça, la bague, dans une petite boîte. Chacun qui va se marier, il va, il prend la bague, il marie, il la ramène de nouveau au secrétariat. Évidemment, elle n'est pas mariée, la femme. Rien du tout. C'est, il a marié avec la bague du kibbutz. C'est ta femme le mariée au kibbutz, je sais pas, ça se peut. Hein. Mais en tout cas, elle n'est pas mariée à lui. Donc il est nécessaire, pour répondre à la question, nécessaire que nous sachions, que le khatan sache que les édim, et d'habitude tous les rabbanim, lorsqu'ils font le kiddushin, ils demandent, est-ce que c'est ta bague, tu l'as acheté avec son argent, elle t'appartient totalement? Il dit oui. Là, nous savons que ça lui appartient, dans ce cas-là, les kiddushin sont valables. Sinon, il y a un doute, peut-être qu'il faudra faire les kiddushin. Ok. Une fois que les deux témoins ont vu que la bague a la valeur d'une prouta, que ça appartient au khatan, on rend la bague au khatan et il va la donner à la femme. Auparavant, on va expliquer à la femme, maintenant vous recevez maintenant cette bague-là, par le fait que vous recevez cette bague en cadeau, vous devenez sa femme. Il faut qu'elle comprenne maintenant qu'elle a fait un acte de kiddushin. C'est pas, comme je l'ai dit, un cadeau qui exprime mon affection. C'est pas cela. C'est par cela que tu deviens sa femme. Elle doit bien comprendre qu'elle reçoit cela au nom de Kiddushin. Et le mari, le futur mari, le khatan, va le lui dire. Comment va-il lui dire? Par cette bague, tu m'es consacré, comme le stipule la loi de Moshe et Israël. C'est-à-dire que nous marions d'après les lois de Moshe Israël. Ça veut dire qu'à certains égards, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, il y a des cas où Rabbanan, les rabbins, peuvent faire sauter un mariage, si ça n'a pas été fait dans le cadre de ce que Chazal, de ce que les rabbins ont stipulé. Donc nous disons bien que nous marions d'après les lois stipulées par Moshe et Israël. Israël, c'est la rabbanim d'Israël. En hébreu, « Are at mekudel shetli, tu m'es sanctifié, consacré », pas que da'at comme la vie, mais que dat comme la religion, comme les lois de Moshe et Israël. Maintenant, si le khatan sait dire la phrase par cœur, alors il le dit. Sinon, le rav, il va lui réciter, dicter. Mais il y a un problème, petit problème, c'est que, comment on va? Alors on va dire, aré, tu mets, at, tu mets, mes coups de chaîne sanctifiés à moi. Et lui répète à moi. Alors la bonne femme peut se dire, à qui je suis sanctifié? À lui ou à lui? Peut-être que le khatan, c'est un chaler, c'est un envoyé. On peut sanctifier une femme par un envoyé. Peut-être que la femme est envoyée par le rav. Le khatan, il est envoyé, c'est un envoyé du rav. Donc le mieux, c'est enseigner au khatan avant le mariage. Quand je te le mot li, tu diras tout seul. Je te dirai mekoudeshet et toi tu diras mekoudeshet li. Comme ça, moi je n'ai pas dit tu m'es sanctifié à moi, tu m'es consacré à moi. Lui a dit à moi, le à moi. Tu es consacré, moi je dis rien, le rav il dit rien, lui il dit tu es consacré à moi, qui date par cette bague, qui date Moshe Israël comme la loi de Moshe Israël. Si jamais le khatan, c'est un ignare, il ne sait pas qu'il faut que dire cela comme ça, alors le rabbin pourra quand même dire li, comme ça un peu à voix basse, et soit très clair maintenant que normalement on comprend que il n'est pas il n'est pas envoyé du rav, et c'est lui et lui seul qui va marier cette femme. Des fois, le khatan, il est un peu... Il est très content de se marier avec sa femme, et il dit qu'il a la bague, il n'a pas dit la phrase. Il y a un problème.
Il retire et remet.
Ah, c'est pas si simple. Je vais pas rentrer dans tout le fait du tout. Il faut que la femme retire et qu'elle fasse un don, parce qu'il lui a donné, ça appartient maintenant à la femme. il faut que la femme lui fasse un don total et absolu de cette bague. Il lui donne, elle lui donne de nouveau la bague en don absolu, vous lui donnez, ça lui appartient lui complètement, plus tout à vous, c'est en cadeau, c'est à toi, complètement à toi. Oui, ok, refais maintenant, et dit, arrête mon côté chotli, etc. Si on a mis, et après on a dit, c'est pas refaire les kiddushim. Le mieux aurait été, d'après la loi, qu'on ait une deuxième bague de rechange, et qu'il fasse de nouveau avec... Mais vu qu'on n'a pas d'habitude une deuxième bague de rechange qui lui va bien, sinon c'est, oui, moi j'en ai, je vous la prête en attendant, c'est encore plus compliqué, parce qu'on peut pas sanctifier une femme avec une bague qui est prêtée. Donc le plus simple, c'est de retirer la bague de la femme, qu'elle lui donne en don, comme j'expliquais, et ainsi cela sera valable. Ok. La femme va retirer ses gants. On ne met pas la bague avec le gant, bien que c'est un don valable, mais ce n'est pas kavod pour la mitzvah, c'est une grande mitzvah donc de Kiddushin. Elle enlève le gant, de même aussi que lorsque nous mettons le matin, lorsqu'on met les tefilines, alors quand on met les... On a dit le mot rastichli. Rastichli, c'est quoi? Tu mets fiancé. Iroussine. Or, il y a un rapport entre nous qui sommes fiancés avec Dieu. On a un contact direct quelque part avec la mitzvah de la nerf des tefilines. On est branché avec Dieu, on est lié avec Dieu. Là, de même que dans les tefilines, il n'y a pas de gant. Il faut qu'il y ait un contact direct entre la lanière et le doigt, là où stichli, tu mets fiancé, entre la bague et le doigt. Donc la femme va enlever le gant, s'il y a des gants, elle mettra l'index de la main droite. D'après Tikkuné Zohar, d'après le Zohar, c'est mieux l'index de le majeur de la main droite. Mais le minag n'est pas comme ça, on le fait avec l'index. Et comme ça, on fera sans le Zohar. Donc le pourquoi sur l'index, il y a beaucoup d'explications qui ont été données là-dessus. On va prendre celle la plus mystique. Tout simplement, ça correspond à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 7, c'est les 7 sphères intérieures, c'est les 7 jours de festin, c'est les 7 brachot, tout va par 7. 7, c'est le cycle naturel qui est ici. Dieu dirige le monde par 7. Donc là aussi, on peut dire même que le 7e, c'est la malchut, c'est la femme, c'est la 7e sphère, ça correspond au côté féminin, au niveau des mondes, au niveau de la mystique juive. Donc là aussi, on va donner le 7e doigt.
C'est les
gauchères. Aussi, d'après la Kabbalah, il n'y a pas de différence entre gaucher et droitier. On va d'après les mondes supérieurs, toujours droite, même si quelqu'un est habitué à faire les choses avec la gauche, on va d'après la droite. Le seul cas où ça change un peu, c'est au niveau des tefilines, parce que là, c'est marqué qu'on doit faire comme on écrit. C'est marqué au niveau des tefilines, pourquoi est-ce qu'on apprend de là l'écriture? Vayu el'ot al-yadra utfol ben'anecha. Urtavtam al-muzol betecha. Il y a le verset qui dit, Vayu el'ot al-yadra, elles seront signes à ton bras. En fronton sur tes yeux, tu les écriras sur les mezuzotes de tes, ce même texte qu'on écrit dans le filon, on écrit aussi dans la mezuzah qu'on met à la porte. Le fait qu'il y ait juste une juxtaposition de mettre au bras et d'écrire, de là on apprend qu'on doit mettre au bras avec le bras qui est écrit. Donc je mets sur le bras gauche, vu que j'écris avec la main droite. Je mets avec le bras qui est écrit. Donc au filon, c'est un peu différent. Mais aux autres égards de halakha gauche-droite, d'habitude, nous les Sfaradim, on va d'après la mystique juive, qui considère que même si quelqu'un est gaucher, néanmoins, la droite, c'est la droite du monde entier. Donc, là, si tout va bien, on est en train de faire l'acte de Kiddushin, là, le mari met cela à sa femme. Il est nécessaire, et c'est la chose la plus importante qui est dans toute la cérémonie, que les deux témoins voient cela, entendent le Khatan dire, voit la bague, la même bague à propos desquelles ils ont témoigné qu'elle avait la valeur d'une prouta et qu'elle appartenait au khatan, avec cette même bague, il a été, mais il a consacré cette femme. Il est aussi très important qu'ils aient vu c'est qui la femme. Donc on demandera à la femme, avant les kiddushin, de se dévoiler, c'est la voile, qu'on voit bien que c'est bien elle. Ils doivent témoigner que c'est elle, et pas une autre qu'on a mis à la place. La femme pourra tout de suite après enlever la bague de l'index, et le mettre où elle veut, et mettre le mettre ici au quatrième doigt. Et la coutume, c'est qu'elle le garde toute sa vie, une alliance, pour montrer qu'elle est mariée. Coutume mauvaise, interdite d'après la Torah, que la mariée donne aussi une bague au mari. Sous la choupa, c'est certain que c'est interdit, de peur qu'on va croire, de même que l'homme, il sanctifie, il consacre la femme consacre l'homme. Non, c'est faux. C'est l'homme qui consacre la femme, mais pas la femme qui consacre l'homme. Première chose. Deuxièmement, il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une habitude dans les synagogues réformistes de faire ainsi. Alors, vu que c'est une habitude pour les gens tordus, réformistes, de faire ainsi, donc nous, ça devient un interdit beaucoup plus grand. Et plus que cela, Rav Moshe Feinstein dit que c'est Bechukotel Motelechou, vous n'irez pas d'après les coutumes des non-juifs, que chez les non-juifs, il y a l'habitude de donner, que chacun se donne une bague, l'homme aussi, il porte une alliance. Donc d'après la coutume juive, il est très déconseillé que l'homme porte aussi une alliance.
Mais alors, un mariage ?
En tout cas, pendant le mariage, c'est interdit, après, ce sera très déconseillé.
Parce que la femme, elle a des doutes, elle veut
j'ai dit, je t'ai dit, t'as entendu, j'ai dit. Rav Moshe Feinstein dit que c'est interdit. C'est un avis, il y a sûrement d'autres avis qui disent que ce n'est pas interdit, ça sera déconseillé. Sous le mariage, sous le dénuptial, ça sera interdit. Ok. Oui.
Le problème sur la coupa, c'est un membre de la famille, enfin une femme qui a les cheveux découverts. C'est un problème ou pas ?
Comme ça. On avait dit que la shrina venait sous le dénuptial, c'est vrai. S'il y a des femmes mal habillées sous la coupa, la shrina s'enfuit. Qu'est-ce qu'on appelle mal habillé ? Alors, il est interdit de voir les parties qui sont plus basses de la clavicule, du trou qu'il y a ici. Il est interdit de voir les parties qui sont plus hautes que les coudes. Il est interdit de voir les jambes. Partout, toutes les femmes. Les cheveux. Une femme mariée, c'est aussi interdit qu'elle ait les cheveux qui soient dévoilés. Néanmoins, c'est un avis, il y a plusieurs avis à ce niveau-là, ça sera moins grave. Si une femme mariée a les cheveux découverts sous la choupa, c'est pas le mieux du monde, mais c'est moins grave. Beaucoup moins grave que les autres parties qui sont dévoilées. Si les autres parties sont dévoilées, il y a un gros problème aussi pour le rav qui fait les brachot. Les rabbins qui vont venir, sept rabbins qui vont passer faire les brachot, comme faire, il y a une interdiction de la Torah, c'est marqué « Lo ire becha ervat davar »« Il ne verra pas, qui Dieu ne verra pas en toi une partie erva ».« Erva », c'est sexuel, ça veut dire une partie qui est dénudée. Donc les parties qu'on a le droit de voir, comme je dis, c'est la face jusque ici, les bras jusque là, c'est tout. S'il y a plus qui est dénudé, on n'a pas le droit de parler de Torah, c'est interdit de la Torah de dire, on peut penser, mais on n'a pas le droit de dire des paroles de Torah. Comment est-ce que le rabbin fait maintenant une bracha en face d'une mariée qui a un décolleté terrible, ou en face de la belle-mère de la mariée qui a un décolleté terrible? Normalement, c'est interdit. Mais chaque tatraque en cas de force majeure, comme c'est le cas sous le mariage, autorisera si le rabbin fait une de ces trois choses. Ou il ferme les yeux, ou le mieux, il tourne complètement et fait la bracha là-bas, il est dos face à la nudité, ou troisièmement, il regarde dans le sidour, il ne voit pas. Mais si un rabbin fait la bracha et il voit les parties interdites, il transgresse un interdit de lo ire bechaïba, c'est un interdit qui est aussi grave que de manger du porc. Donc on demandera aux familles du marié et de la mariée, et à la mariée surtout, de s'habiller de façon pudique. Et ils auront l'avantage très grand d'avoir avec eux la présence de Dieu. Sinon, la présence de Dieu, elle s'enfuit.
C'est un problème de faire des offices en France, alors.
Pourquoi office en France? Quoi, il y a des femmes, on voit des femmes mal habillées.
Par exemple, dans la synagogue, il n'y a pas de pièces différentes, mais c'est à l'étage.
Ouais.
C'est un balcon.
Ouais.
S'il y a des femmes qui viennent mal habillées dans la synagogue, alors le rabbin, on peut plus faire la prière.
S'il regarde, oui, il ne faut pas qu'il regarde. Comme je dis, s'il a les yeux fermés ou dans le sidour, ça peut aller en cas de force majeure.
Mais alors, s'il y a une femme qui a les cheveux découverts, juste, il n'y a pas de problème avec la shrina.
C'est moins problématique. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais c'est moins problématique.
On parle sous la choupa.
Sous la choupa. Ok. Après qu'on a vu le don de la bague, je crois qu'on a tout vu ici, hein. On dira le minhag et dire Mekoudeshet, la femme, on dit elle est sanctifiée, et Mazal Tov, Yelele, etc. Bon, on a fini l'acte le plus important qui était celui des Kiddushin.
Il a le droit de toucher sa femme là ? Toujours pas ?
Oui.
Non, elle n'a pas le droit de la toucher.
Hein ?
Interdit.
De la prendre par la main,
etc. Non, Shumpanim Vofen. Elle a un statut de Arusa. Interdite, on n'a pas le droit de la toucher. Quoi ? Kiddushin, je te dis qu'à l'époque, Kiddushin, on a déjà répété ça trois fois ici, qu'après Kiddushin, il partait 6 mois, 1 an, après venait chez son mari. Le mariage, il n'y a pas encore le mariage, il y a eu Kiddushin. Il n'y a pas eu mariage encore.
S'ils veulent faire un slow après, ils ne veulent pas.
Qu'est-ce que c'est qu'un slow ?
Ils ne
veulent pas, la femme, il y a Khader Echoud. Après le mariage, on va dans Khader Echoud faire un slow là-bas, il peut faire un rock'n'roll s'il veut, il fait ce qu'il veut.
Non,
mais dans le. Mais dans le.
Quand ça, elle va avoir dans la tête couverte après.
Lentement, maintenant je suis au Kiddushin. Maintenant, cette femme-là n'est pas encore mariée. D'accord ? Elle est juste Mekoudeshet. Maintenant, normalement, il faudrait attendre 6 mois, 1 an, et faire les Nisouin, le mariage. Mais il y a eu déjà un kherem, il y a eu la coutume, aujourd'hui c'est un kherem, c'est interdit. Chazal ont interdit, les rabbins des derniers siècles, il y a déjà 4-5 siècles, ont interdit en kherem, en excommunion, celui qui fait cela, de faire séparer, on fait ensemble. Mais pour bien exprimer que c'est deux choses différentes, entre les deux, on va lire la Ketouba.
Pourquoi ils ont mis en kherem ?
Pardon ?
Pourquoi si c'est grave maintenant de faire...
Parce que c'est une femme, pour justement, il y a une confusion chez les gens, ils disent, vu que maintenant c'est ma femme, elle a été mes coups d'échelle, donc je peux la toucher, je peux faire un slow avec elle, c'est interdit. Alors, pour le peuple, le monde entier, pour pas qu'il y ait de gens qui disent oui, non, non. Et on excommunie, c'est très grave. Donc on fait les deux choses ensemble. Pour bien exprimer qu'il y a une différence entre les deux, c'est pas le même acte, on va faire deux fois aussi Bora Pira Geffen sur un verre de vin, on peut pas refaire si c'est le même acte, c'est deux verres de vin différents, deux fois on fait Bora Pira Geffen. Donc, on va séparer ces deux actes par la lecture de la Ketouba. Maintenant, il y a une coutume qui est que d'abord le Khatan prend le Talit et on met le Talit sur le Khatan et la Kala, et après, sous le Talit, on lit la Ketouba. Le minhag de Rav Ben Sina Bachaoul, et comme ça, moi, je fais et je dis de faire, c'est d'abord on lit la Ketouba, après on fait le Talit. Pourquoi ? Parce que le Talit, d'après certains proscrits, mais comme ça, d'après le décisionnaire Sfarad, le talit, c'est déjà le mariage. C'est le Khatan, il amène la Kala dans son domaine. Son domaine, c'est le talit qu'on a mis. C'est son talit à lui, et il met aussi sur la Kala. Il y en a qui ne mettent même pas dessus, ils le mettent comme ça sur la Kala. Pour exprimer, voilà, maintenant tu rentres dans mon domaine, c'est le mariage. On fait les sept brachot. Or, la halakha dit, une femme ne peut rentrer dans la choupa, dans le mariage, que si elle a une ktouba, un acte, un contrat de mariage. Donc on va faire d'abord le contrat de mariage. Une fois qu'il y a la Ketouba, contrat de mariage, on va passer au mariage, et donc le Talit et les Sheva Brachot. Il y en a qui font ça à l'envers, ils ont aussi sur qui compter. Néanmoins, d'après le Rabbi Yisrael Bachelot, on doit faire comme je viens de dire. D'abord, on va faire la lecture de la Ketouba, et après, le Talit. Alors, qu'est-ce que c'est que la Ketouba ? La Ketouba, c'est en fait un contrat de mariage qui concerne principalement l'homme, et il s'engage sous la choupa, il va signer, il va faire un kinyan, un acte d'acquisition, et même d'après le minhag sfarad, il va jurer de faire tout ce qu'il y a dans toutes sortes de devoirs envers sa femme. Il s'engage à les faire. La ketouba, en fait, c'est un contrat, et c'est récité en quelque sorte, c'est comme s'il y a deux témoins. Il y a deux témoins, selon les deux témoins du mariage, sont d'habitude aussi les deux témoins de la Ketouba, vont raconter, nous sommes témoins, comme nous avons vu Moshe, qui s'est marié avec Hana. Et Moshe s'est engagé à tac, 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 tac. Et les deux témoins signent en bas, et le Khatan lui aussi, et moi aussi Moshe, je signe qu'effectivement, j'ai accepté tout ce qui est marqué dans ce contrat de mariage. Quelles sont les obligations de l'homme envers la femme, quelles sont les obligations de la femme d'après de la femme envers l'homme? Alors l'homme, il a 10 obligations. 10 obligations minimales. Après quoi, on a encore rajouté encore d'autres choses dans la Ketouba. Qui sont Ksout, cher Veona, Ksout, l'habiller. Elle veut une robe, peut lui dire, va demander à ton père qu'il achète une robe. Dès que les mariés, c'est le mari qui doit habiller sa femme. Obligatoire. Ksout, Sheher, c'est la nourrir. On a relations sexuelles. Ensuite, il y a encore 7 autres obligations. Encore les malades, grâce à Shalom, la soigner, le payer les médecins, l'hôpital, tout ce qu'il faut. Encore grâce à Shalom, où elle a été emprisonnée et on demande une rançon, il peut dire, bah tant pis pour elle. Il doit aller la libérer. Il doit payer la rançon. Troisièmement, donc sixième en tout, si Hachem elle est morte, il doit payer l'enterrement. L'enterrement, la stèle, funéraire, tout ce qu'il faut, ça coûte cher. Ensuite, il reste encore, on a fait 3, il reste encore 4 autres lois qui sont Ikar Ketubata. Chazal, on fait une takana, on fait un décret que lorsque le mari se marie avec une femme, il doit lui donner une somme d'argent. Il n'est pas obligé de donner cette somme d'argent en pièces, mais il s'engage. Ça s'appelle la Ketouba. À quoi ça sert? Ça sert à deux choses. Une des deux. Si jamais, un beau jour, lui veut la divorcer. Il peut lui dire, rentre chez ta mère. Il s'est énervé, rentre chez ta mère, comme font les Arabes, trois fois il dit, t'es divorcé, bye bye, terminé. Pour éviter ce genre de cas, parce qu'on sait que les Juifs sont des fois un peu nerveux, alors on va lui dire, bon, très bien, mais tu t'es engagé sous la coupa dans la ktouba, que le jour où tu la divorces sans motif valable, s'il l'a trompé ou un truc qui est vraiment elle va non pudique, etc., dans ce cas-là, il peut donner un divorce, avec divorce sans la somme de la ktouba. Mais s'il n'y a pas de raison valable, simplement, tu ne me plais plus aujourd'hui, tu m'énerves trop, je ne peux plus supporter, ta belle-mère, ma belle-mère est insupportable, dit, ok, insupportable, mais combien tu t'es engagé? $52 000. Bon, eh ben, donne-les. À bon... Tu sais, à la rigueur, en fait,
c'est elle qui veut.
Il devra y repenser une deuxième fois. Si elle veut, alors elle ira voir un rave qui va essayer de calmer le jeu, qu'il n'y ait pas de divorce, mais si vraiment c'est nécessaire, alors on va essayer de convaincre le mari de donner un guet à sa femme. Alors elle peut dire je te pardonne, je ne veux pas la somme d'argent, pourvu que tu me donnes le guet. Bon, c'est des histoires qui sont assez désagréables, ça c'est déjà les rabbinats, les grandes bagarres qu'il y a au niveau de la ktouba. Quoi qu'il en soit, donc le mari s'engage qu'en cas où il veut divorcer sa femme, il lui donne une somme d'argent. Il ne faut pas mettre une somme qui soit trop petite, mais surtout pas une somme qui est trop grande. Toujours les maris sont fous amoureux, il lui met 5 millions de dollars. Ici, dernièrement, le rabbinat en Israël a interdit au rabbinim de faire une ktouba dans laquelle il y a plus de 1 million de shekels. C'est déjà pas mal, c'est beaucoup trop. C'est le minag ici qu'on a en Israël, ici en Jérusalem, c'est en gros $26 000, si on aime beaucoup $52 000, mais pas plus. Parce qu'après, il faut les payer. Le type, il n'a rien du tout. Évidemment, si c'est Bill Gates qui met quelques 50, 26 milliards de dollars, il n'y a aucun problème. C'est un homme normal qui n'a pas beaucoup d'argent, donc on mettra une somme qui soit conséquente, puisque la femme, elle n'est pas prête comme ça pour rien du tout à se marier, mais pas non plus astronomique. Une somme intelligente qui sera une sorte de frein pour le mari qui devra penser à deux fois s'il veut la divorcer.
Ça vient en plus de...
Alors, la somme minimale que Chazal ont donnée, ça c'est obligatoire, c'est pour une femme qui est vierge, 200 zouz. Combien ça vaut aujourd'hui, je ne sais pas exactement. Si c'est une femme qui n'est plus vierge, ou elle est divorcée, ou elle est veuve, ou elle n'est pas vierge, ça sera 100 zouz. 100 zouz. Ça c'est obligatoire. Je crois qu'en France, ils laissent comme ça. Ici en Israël, on rajoute. La coutume est de rajouter une somme, et on dit que ça fera en tout $26 000, $52 000, quoi que ce soit. Ça, c'est premier cas. Deuxième cas, c'est si le mari meurt avant sa femme, alors, d'après la loi juive, la femme n'hérite pas. Ce sont les enfants qui vont hériter. Mais la femme peut prendre de l'héritage la somme de la ktouba. Alors les enfants, écoutez, dans ce que vous avez reçu comme héritage, ça me revient. Plus encore beaucoup d'autres choses qu'on va voir maintenant les engagements de la femme. Ok, donc l'essentiel de la ktouba, c'est cela. C'est éviter que la femme, que c'est une somme que la femme reçoit en cas où il la divorce sans raison valable. Deuxièmement, c'est une somme d'argent duquel elle a droit dans l'héritage de facto. Bien sûr, le mari peut donner en héritage tout ce qu'il veut à sa femme. Mais elle, si jamais le mari il est mort comme ça, il n'y a pas de testament, donc d'après la loi juive, on verra que c'est un peu différent aujourd'hui, mais d'après la loi juive originale, donc c'est les enfants qui héritent, et la mère, donc la femme, aura droit à la somme de la ktouba de l'héritage. Baruch Adonai, l'homme,